Est-ce que nous voulons faire? Nous avons un ennemi qui souhaite nous détourner de cette vision, de ce plan, de ce que nous voulons faire. Et voilà, je voulais reparcourir avec vous les quelques passages qui nous montrent comment l'ennemi s'y prend pour nous détourner de la parole, nous détourner de Dieu, nous détourner de Christ et de son salut. Et évidemment, c'est ce que nous ne voulons pas. Donc c'est pour ça que je voulais revoir avec vous, parcourir quelques textes et voilà, essayer de bien discerner, d'augmenter notre discernement quand l'ennemi essaie de nous détourner. Donc je vous propose de commencer par un texte en Hébreux 1, de versets 1 à 5. Donc Hébreux 1, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est aussi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Donc nous voyons que Dieu a parlé par les prophètes dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. On voit que, par exemple, Jean était un prophète, quand on lit le livre de l'Apocalypse, nous voyons définitivement que Jean était prophète. Mais Jésus est supérieur aux prophètes. En effet, les prophètes ont apporté la parole de Dieu, alors que Jésus lui-même était la parole elle-même. Jésus était avant le commencement du monde, il était présent pendant la création du monde, et encore plus, Dieu a créé le monde par Jésus. Et c'est ce que nous révèle donc ce passage que nous venons de lire. Ce que nous apprend également ce passage est que Jésus soutient le monde par sa parole puissante. Et pour nous qui croyons en lui, nos péchés sont effacés et purifiés par lui. Jésus est le reflet et l'image de Dieu le Père qui est amour et justice. Donc il est les deux, c'est ce que nous a rappelé Stéphane il y a quelques semaines. Jésus est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, et c'est pourquoi il est précisé qu'il a hérité du nom de son Père. Héritage, seuls les fils ou les filles peuvent hériter du Père. Dans un autre passage de la parole, il est précisé que tout pouvoir et toute autorité ont été donnés à Christ dans les cieux et sur la terre. Il a donc tout pouvoir et toute autorité sur cette terre. Et donc toute cette introduction pour dire que Christ est le centre et l'enjeu du plan de Dieu, c'est pourquoi il est au centre de la bataille qu'a menée Satan et qu'il mène aujourd'hui et qu'il mènera dans le futur. Et je vous propose donc de reparcourir certains passages de la parole sous ce regard, dans le but de mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui au travers de ce qui s'est passé et dans quel combat nous sommes engagés aujourd'hui. Donc pour commencer, on va reprendre les fondamentaux. Donc revenir à la chute, donc revenons à la chute, le point de départ donc, de ce message comme point de départ. Et je pense que nous connaissons tous ces passages dont nous parlons. Cependant, j'aimerais me focaliser sur quelques versets spécifiques nous présentant le combat qui se jouera sur terre et à partir du moment de la chute. Donc je vous propose de lire en Genèse 3, les versets 13 à 15. Genèse 3. L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le serpent, c'est l'image évidemment de Satan. Et le plan de Satan, c'est de vaincre Dieu. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut faire. Et il commence par attaquer sa création. Satan a réussi la première étape de son plan, faire chuter l'homme et la femme que Dieu a créés. Satan a remporté sa première bataille par la séduction. La parole de Dieu était déjà communiquée à Adam et Ève. Vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Satan, dès le commencement, essaie de remettre en question la parole, car elle soutient le monde, comme nous l'avons lu dans l'introduction. De plus, la parole est Jésus. Donc Adam et Ève avaient la parole pour rejeter Satan. Cependant, pour rejeter Satan et sa parole de mensonge, il fallait avoir la connaissance et le discernement pour reconnaître Satan au travers du serpent. Il ne faut pas douter, Satan a pour objectif de détruire le plan de Dieu. Et après sa victoire dans cette première bataille, Satan croit plus que jamais arriver à ses fins. Peut-être que certains d'entre vous pensent qu'aujourd'hui la victoire de Dieu est déjà gagnée pour nous qui sommes sauvés et qu'il n'y a plus de bataille. Je pense pouvoir vous dire que c'est un manque de sagesse et de discernement. Combien de nos frères et sœurs ont rejeté Christ et son salut alors qu'ils avaient goûté aux prémices de la joie d'appartenir à Christ. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. C'était déjà le cas au temps de Paul et même pendant la vie de Jésus. L'exemple de Judas doit attirer notre attention. Judas faisait partie des 12. Hein. Il était membre. C'était pas pour rien qu'il faisait partie. Donc je voulais juste vous mettre en garde et dire voilà, nous ne soyons pas naïfs et soyons vigilants sur les attaques que nous pouvons subir. Donc pour revenir au verset, mais alors que Satan venait d'avoir sa première victoire, Dieu aussi avait son plan qu'il commençait à déployer. Et au verset 15, il est écrit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc là, il est question de Satan, c'est Dieu qui s'adresse à Satan. Et je pense que cette parole est prophétique décrivant le plan de Dieu. En effet, qui parmi les femmes de l'assemblée a écrasé la tête d'un serpent? Je crois que ça n'arrive pas tous les jours. Ou a été mordu par un serpent? Je pense que c'est vraiment une parole prophétique qui nous est donnée. Et donc le plan qui nous est décrit ici, c'est la femme et celle qui apportera le Messie. Dieu sous la forme humaine pour racheter les pécheurs, ça c'est le plan de Dieu pour nous. Et ce dernier, le Messie, écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire Satan. Et celui qui essaiera d'anéantir, et celui-ci, donc Satan, essaiera d'anéantir la femme qui portera ce Messie. Voici les règles du jeu et du combat sont définies. Et elles sont définies par Dieu. C'est important de le noter. C'est Dieu qui définit les règles du jeu. Et le plan de Dieu, c'est la victoire. Écraser la tête du serpent tue, blesser le talon ne tue pas. C'est le plan de Dieu. Et on voit rapidement dans l'Ancien Testament, dans quelques chapitres après, que sur les bases de cette victoire sur le Jardin d'Éden, Satan est à l'œuvre pour propager sa doctrine et il continue à dérouler son plan en profitant, en profitant de la faiblesse de l'homme qui ne rejette pas le mal alors qu'il le pourrait et le devrait. Nous le voyons très rapidement avec Noé en Genèse 6, les versets 5 à 8, on va lire ces quelques passages, ces quelques versets. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Satan, à ce moment-là, est au bord de la victoire totale, poussant Dieu à devoir anéantir par lui-même sa création. Et les raisons de tout ça, c'est le pouvoir de conviction de Satan et la faiblesse de l'homme à rejeter le mal, le péché. C'est les deux raisons qui font qu'on est arrivé à cette situation. Et malgré la dureté de ce passage, il est extrêmement dur, quand on lit, on va relire le passage, que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. C'est extrêmement dur comme parole. Et malgré ça, il y a un puissant encouragement à en tirer. Avec un tout petit peu de bien dans le cœur de l'homme, Dieu peut faire quelque chose. Pour nous qui prions, pour des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, l'Éternel, s'il y a un tout petit peu de bien, et je crois que c'est le cas de tous, on ne perd pas espoir. Et pour revenir au passage, malgré le marasme à venir, gardons en tête que Dieu a un plan et que notre Père va l'accomplir. C'est ce que nous voyons au verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et pour ceux qui croient que c'est un hasard si Noé a trouvé grâce, ils se trompent. Dieu veut sauver sa création, il veut nous sauver. C'est la démonstration de la volonté du Père céleste qui veille sur nous, qui veut nous encourager, il veut nous aider à avoir la victoire sur le mal. Pour résumer, Satan a eu sa victoire. Mais Dieu a démontré que son plan s'accomplirait pour aller à la victoire totale et définitive. Et Dieu dévoile un point supplémentaire à propos de son plan qu'il va accomplir au travers de la promesse qu'il va faire à Abraham le juste parce qu'il avait la foi. Donc en Genèse 12, les versets 1 à 4, Genèse 12, 1 à 4, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. On pourrait croire qu'il s'agit uniquement d'une promesse de Dieu à un homme et sa descendance. Cependant, si on entre dans les détails, on peut y voir la prophétie du plan de Dieu. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment est-ce que par un seul homme, toutes les familles de la terre seront bénies? Si ce n'est par l'accomplissement du plan de Dieu de sauver tous les hommes, il n'existe pas de plus grande bénédiction. À partir de ce moment, il est clair que la femme qui portera le Messie et par lequel elle pourra écraser la tête du serpent passera par la descendance d'Abraham. Cette descendance sera donc la cible des attaques de Satan. Et c'est ce que nous voyons au travers, par exemple, de l'histoire de Moïse. Moïse sauvé des eaux par une femme, c'est important, sa mère. Sa mère n'a pas obéi à Pharaon et encore plus, fort, la fille du Pharaon l'a accueillie et l'a élevée. Encore une fois, c'est la femme qui a sauvé la descendance et le plan de Dieu. Le pays d'Égypte était rempli d'occultisme et de faux dieux, inspiré par l'ignorance des hommes et par Satan lui-même afin de détruire l'humanité. Sous cette influence satanique, le peuple qui devait apporter le Messie est réduit à l'esclavage et à terme à la destruction, réduisant à néant le plan de Dieu. Satan était au bord de la victoire, mais Dieu va réaliser son plan et se sert de Moïse le fidèle afin de démontrer sa supériorité sur Satan. Le peuple du Messie va être libéré en passant au travers des flots de la mer des joncs et Pharaon et son armée anéantis dans cette même mer. Moïse, celui qui a été sauvé des eaux de la mort, est passé au travers des eaux de la mer et ces mêmes eaux de la mer ont détruit l'œuvre de Satan qui voulait détruire le plan de Dieu. Je trouve vraiment ça incroyable. Plus tard, nous voyons également Satan qui essaie de détruire le peuple de Dieu au travers des Philistins. Je vous prie de faire attention donc aux mots que Goliath va utiliser. On va lire un texte en 1 Samuel 17, les versets 8 et 11, 8 à 11. Donc 1 Samuel 17, 8 à 11. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en ordre de bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui, et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Le but de Goliath n'est-il pas de détruire Israël en essayant d'emprisonner, de soumettre à l'esclavage et arriver à la fin à la destruction? Je pense personnellement que ce plan était inspiré par Satan. Les Israélites, comme Adam et Ève, se sont laissés avoir par les mots de l'ennemi plutôt que de se baser sur la parole de Dieu et ses promesses. En effet, Dieu n'avait-il pas déjà promis et donné la terre promise? N'avait-il pas fait une promesse à Abraham le juste par la foi en disant « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». En s'attachant à ces paroles, le peuple de Dieu n'aurait pas dû avoir peur. Regardons la réponse et le moyen qu'a utilisé David donc contre Goliath en 1 Samuel 17, les versets 43 à 48, où on voit que Goliath a utilisé l'insulte et a maudit David. Donc 1 Samuel 17, verset 43, « Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » David s'appuie sur la promesse de Dieu et nous connaissons la suite de l'histoire. L'importance, la promesse de Dieu et la parole de Dieu. Je n'ai pris que quelques exemples de l'Ancien Testament, montrant ce combat physique et spirituel. Et sur chacune des batailles entre Israël et un peuple extérieur, c'est la même histoire. Passant d'une victoire à une défaite, Satan a gagné des batailles et en a perdu d'autres. Mais on voit que Dieu accomplit son plan et que la défaite ou la victoire dépend de notre obéissance à la parole de Dieu et de notre foi en ses promesses. Toujours en prenant l'histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a connu de très nombreuses victoires sur les ennemis d'Israël en se basant sur les promesses de Dieu. Son armée était devenue structurée, expérimentée, forte. David n'avait plus vraiment à se préoccuper de ses ennemis extérieurs. Et pour le plan de Dieu, tout était OK afin de faire venir le Messie par Israël. Sur ces bases, ou alors à cause de ces bases, alors que David était plus âgé, il n'est pas parti au combat pour une bataille. Il s'est relâché et un ennemi intérieur est apparu. Nous pouvons lire en 2 Samuel 11, les versets 1 à 4. De Samuel 11. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabba. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, et femme d'Uri le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis, elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » On peut se demander, comment était-il possible à Jérusalem que David, du haut de son palais, ait la vue sur un bassin où une femme se baigne? Ça me paraît étrange, hein? De plus, il a pu voir qu'elle était belle. Ça ne devait pas être très loin du palais. Et cette femme, ne s'était-elle pas rendue compte qu'on pouvait la voir pendant son bain? Et le hasard fait qu'au moment où David se promène, Bathsheba se baigne. cette histoire me paraît vraiment étrange. Il n'est clairement pas précisé dans le texte qu'on vient de lire si Satan était l'instigateur. Mais à sa place, après la certitude qu'il n'aurait plus la victoire sur Israël d'un point de vue militaire, et donc la victoire sur le plan de Dieu, la stratégie d'une attaque intérieure me paraît extrêmement probable. Cette histoire ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de la chute. Et c'est le plan de Satan, amené à la chute. Tout ça pour dire que l'attaque peut être extérieure, mais également intérieure. Il est important de noter que même si Satan était l'instigateur de la chute ou de la tentation, David reste responsable à 100% de ses actes. Et plutôt que de dénoncer cette attaque en se basant sur la parole de Dieu, il connaissait la parole, David, connaissait le commandement « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Il s'est laissé aller. Nous sommes 100% responsables de nos actes, même si Satan nous tend des pièges. Je m'arrête ici sur l'Ancien Testament, mais nous pourrions voir que tout ce que nous enseigne l'Ancien Testament pourrait être traité sous ce regard du combat entre Satan et Dieu au travers de la venue du Messie pour nous sauver. Donc, passons maintenant au Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, le Messie, le plan de Dieu. Pour faire le lien, lisons en Ésaïe 7, le verset 14, qui nous révèle une nouvelle partie du plan de Dieu concernant la venue du Messie. Donc Ésaïe 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Non seulement la femme écrasera la tête du serpent, mais elle le fera seule, sans l'aide d'un homme. C'est pourquoi c'est une Vierge qui enfantera le Messie, par la puissance du Saint-Esprit et donc de Dieu. En Luc 1, les versets 35 nous dit « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et au verset 37, « En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Donc le plan de Dieu à ce moment-là entre dans sa phase d'exécution. Il n'est plus question de prophétie, mais véritablement de réalisation et rien n'est impossible à Dieu. Quelque temps après, Jésus le Messie né, Satan connaissait le plan de Dieu, il ne lui reste plus beaucoup de chances pour gagner et il va tenter une nouvelle attaque. On voit ça en Matthieu 2, les versets 13 et 14, il est écrit « Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. L'enfant est protégé par la révélation de la parole de Dieu. « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Et par l'obéissance à la parole, l'enfant Messie est sauvé. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Vous pourriez me dire qu'il n'est pas mentionné dans ce texte que Satan a influencé le roi Hérode afin de tenter de tuer Jésus et ainsi briser le plan de Dieu. On pourra tous faire l'analyse qu'on souhaite, il n'y a pas de souci. Pour ma part, je souhaite persévérer dans cette direction. Regardez des versets qu'on va lire juste après en Matthieu 4, les versets 1 à 11. Qui est le texte de la tentation de Jésus dans le désert. C'est pour ça que je pense que ce premier plan de détruire Jésus par Hérode était réellement inspiré par l'ennemi. Donc en Matthieu 4, au verset 1, « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Ordonne que ces pierres deviennent du pain, des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc, dans ce texte, Jésus se trouve dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Il fait très chaud le jour, très froid la nuit. Il n'a pas mangé. Jésus, en tant qu'homme, se trouve à un moment d'extrême faiblesse. Et Satan le sait et choisit cet instant pour appliquer la même stratégie de mensonge, remettant la parole en question. La même stratégie utilisée contre Adam et Ève qui l'a conduit à une victoire. Et cette fois, la victoire recherchée est totale par la destruction du plan de Dieu, Jésus le Sauveur. C'est un double combat sur de la logique et sur de la volonté. Satan utilise la parole d'une façon logique pour détourner Jésus et il insiste afin d'arriver à ses fins par la volonté. Il s'y reprend à trois fois et Jésus utilise les mêmes armes, la logique en se basant sur la parole de Dieu et la volonté car il connaît les fins de Satan par son discernement. Ainsi, dans tous les cas, Jésus contredit Satan et ne cède pas un millimètre. Ainsi, par sa logique basée sur la parole et sa volonté, Jésus obtient la victoire. Et il est écrit, « Alors le diable le laissa. » Mais attention, le combat ne va pas s'arrêter et même Satan obtiendra des victoires. Par exemple, Judas a été piégé et a perdu, amenant le diable à avoir une emprise sur Jésus par l'intermédiaire d'hommes, les chefs religieux et le peuple, au point que la vie de Jésus a été menacée par son arrestation et puis sa condamnation à mort par Pilate à la crucifixion. Satan tient à ce moment sa victoire définitive et le plan de Dieu était anéanti. Au moment de la mort de Jésus, la lumière du monde s'est éteinte et les ténèbres ont recouvert la terre. Satan certainement riait et fêtait sa victoire avec son armée de ténèbres. Cependant, la parole de Dieu reste la vérité. Et il était dit que le Messie devait souffrir jusqu'à la mort pour porter nos souffrances et nos maladies et que la mort n'aurait pas d'emprise sur lui. C'est ainsi que la parole prophétique est devenue réalité et trois jours après sa mort, la pourriture n'avait pas encore atteint le corps meurtri. Il est revenu à la vie, démontrant la supériorité définitive de Dieu par son plan sur Satan et son armée. Livrant ces derniers, donc Satan et son armée, publiquement au spectacle de la défaite. Il ne reste plus qu'un animal blessé, meurtri, ne sachant qui il va dévorer, essayant d'entraîner avec lui le plus d'êtres humains possible afin de goûter à des victoires. Et c'est la transition pour la dernière partie et la conclusion donc, de ce message. Le dernier combat qui est le nôtre, Satan, tel un animal blessé, veut tuer et amener avec lui le plus d'hommes possible. Il utilise les mêmes techniques, la remise en cause de la parole de Dieu pour nous amener à pécher ou à renier le Sauveur. Malheureusement, il obtient de grandes victoires encore aujourd'hui. Il aimerait bien avoir la victoire sur vous, sur nous. Si sa technique de remise en cause de la parole a fonctionné par le passé, elle fonctionnera encore aujourd'hui et pour le futur. L'avantage que nous avons maintenant est que nous connaissons sa technique. Nous savons qu'il utilisera soit une autre personne pour nous attaquer sa parole, ou il nous attaquera dans notre être intérieur, afin de nous amener à renier Jésus. Il nous attaquera quand nous serons faibles, comme Jésus dans le désert, faible, mentalement ou physiquement. C'est à ces moments-là que Satan choisit de nous attaquer, très souvent. Mais nous avons un puissant sauveur qui est la parole. Jésus, je le rappelle, est la parole. Il a donc toute autorité sur cette terre. Et cette autorité... Attendez, je suis en train de sauter les lignes. et cette autorité et domination, il nous la donne pour nous qui l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur. Nous avons l'autorité de Jésus en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est sur cette parole et avec cette parole, nous pouvons croire et nous vivons et nous sommes participants aux promesses de la victoire et d'éternité avec notre Créateur. Et enfin, n'oublions jamais que Jésus est fidèle et juste. Si nous nous faisons avoir par Satan, par sa tromperie, et que nous revenons, nous le reconnaissons, et que nous revenons à Christ, et demandons pardon au Père, il nous pardonnera. Définitivement, nous avons un puissant Sauveur en Jésus-Christ. Et le dernier verset que j'aimerais lire avec vous, en Apocalypse 22, ça en aura parcouru du début à la fin, une partie de la parole. Donc Apocalypse 22, verset 7, Jésus dit « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Voilà, c'est les mots de la fin. Merci.